Monsieur Truchon, rebonsoir.
Bonsoir.
Nous voici donc rendus, pour ainsi dire, au point milieu de notre analyse des béatitudes, c'est-à-dire que nous abordons ce soir l'étude de la cinquième béatitude, la béatitude des miséricordieux. Vous allez sans doute vouloir commencer par définir pour nous ce que c'est qu'un miséricordieux, d'autant plus que c'est pas un terme qu'on emploie souvent dans le langage quotidien, au contraire de la justice ou des doux, par exemple. Il me semble que le terme miséricordieux, plus que les autres, est associé au contexte religieux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, évidemment. Nous allons, comme d'habitude, d'une façon peut-être pas toujours évidente ou apparente, là, définir les mots en eux-mêmes, leur signification. Ensuite, la chose que les mots signifient. Et finalement, le fonctionnement de la béatitude, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment ça marche, et comment collaborer à l'esprit qui la produit en nous. La miséricorde, nous allons d'abord peut-être commencer par des phrases un peu générales pour la situer dans son ensemble, tant au niveau des mots un peu qu'au niveau de la chose. Alors c'est évident qu'aujourd'hui on emploie moins en langage courant le mot miséricorde, mais on emploie souvent le mot sympathie, empathie. C'est pas l'équivalent, mais c'est quand même l'origine grecque du mot. Mais pas le sens nécessairement là, biblique de la koiné, c'est-à-dire du langage de la Bible elle-même, le grec biblique. Alors nous allons commencer par le français, puisque nous parlons français, et nous allons citer quelques auteurs aussi pour déterminer un peu le sens de cette béatitude. D'abord, il faudrait dire une chose, c'est que le mot miséricorde, c'est le mot qui résume le plus profondément la révélation la plus profonde, la plus essentielle sur Dieu dans la Bible. Autrement dit, si on passait à la télévision, si on avait une seconde pour dire ce qu'est Dieu, il y en a qui penseraient à dire qu'il est tout puissant, il est infini, tout ça, mais ça serait pas 10 sur 10. Pour avoir 10 sur 10 à l'examen, il faudrait dire Dieu est miséricorde.
Donc, c'est le synonyme par excellence, donc.
C'est la révélation la plus profonde. C'est le caractère divin face à nous, dans sa relation à l'homme, qui est même la nature du comportement ou des agirs de Dieu envers nous, c'est qu'il est fondamentalement miséricorde. Si on avait une autre seconde pour dire ce qu'est le chrétien, il y en a qui pourraient dire c'est un gars qui est honnête, il a une rectitude morale, tout ça. Il y en a d'autres qui pourraient dire il est baptisé, il va à l'Eucharistie, il reçoit l'Eucharistie régulièrement. Mais ça ne serait pas 10 sur 10. Pour avoir 10 sur 10 encore, il faudrait dire « il est miséricorde ». Alors nous voyons que nous abordons la chose la plus importante, non seulement des béatitudes, mais de la révélation chrétienne elle-même. Nous abordons presque la nature même de Dieu. Je dis presque, un peu par prudence, c'est en fait la nature de Dieu d'être amour, mais miséricorde veut dire amour, mais aussi dans un sens un peu spécial. Alors, c'est pour ça que je mettais cette restriction. Alors, c'est quoi ça? Bon, prenons des grandes lignes générales pour nous situer, continuer à nous situer. Par exemple, le mot français « miséricorde », qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a trois mots. Il y a « misère » d'abord. Ensuite, le mot « corps » ou « cœur ». « Corps »,« cordis » en latin. Vous savez, le français vient du latin, le latin vient du grec, et le reste, c'est bon. Alors, « corps » qui veut dire « cœur ». Et ensuite, « Dieu ». Alors,
est-ce qu'il y a Dieu dans la miséricorde?
Dans le dernier mot, miséricordieux. Bienheureux les miséricordieux.
Miséricordieux, d'accord, oui.
C'est ça. Là, nous analysons le thème, mais la qualité, c'est miséricordieux. Alors, nous revenons à la béatitude. Alors, qu'est-ce que la miséricorde? C'est la bonté toute puissante et infinie de Dieu dans le maximum de misère humaine. Dans son cœur. C'est le cœur de Dieu au cœur de notre misère. C'est la miséricorde. Et si on reprenait la définition du Christ de saint Augustin, quelle est-elle? La définition du Christ d'après saint Augustin, il y en a donné plusieurs définitions, mais l'une entre autres, ici, c'est le Christ lui-même est miséricorde. Autrement dit, le Christ en personne est miséricorde. La nature même du Christ, dans ses rapports avec nous, c'est d'être miséricorde. C'est donc dire que le Christ est un pardon vivant. Et là, nous rejoignons d'ailleurs un terme grec, elasmos, qui est de même origine d'ailleurs, de même racine que le Seigneur prend pitié que nous disons au début de la messe, Seigneur aie pitié de nous, qu'on disait en latin qui venait du grec kyrie eleison, kurios, eleison, eleison, c'est-à-dire prends pitié, encore là, miséricorde. Alors, au début de la messe, nous commençons toujours une cérémonie en disant Seigneur prends pitié, c'est-à-dire manifeste en nous la pitié. C'est-à-dire la miséricorde, c'est-à-dire l'amour infini, inconditionnel, que tu as pour tout homme et qui est déjà donné dans le Christ et qui nous est offerte et que nous avons à recevoir. Au fond, nous prions, Seigneur Dieu, prends pitié, pour que nous prenions conscience que cette miséricorde nous est offerte et est donnée dans le Christ. Alors, c'est le centre même, non seulement de toute la nature de Dieu envers nous dans son comportement, mais c'est même la nature des sacrements, comme par exemple, surtout l'Eucharistie. Quand on reçoit l'Eucharistie, on reçoit encore l'Eucharistie, on nous dit « Le Seigneur livré pour vous » ou « livré pour toi ». Ben, « livré pour nous », c'est-à-dire qu'il est dans un geste qu'on nomme Eucharistie, le Seigneur se donne à nous, a donné sa vie pour nous encore, encore là, la miséricorde. Et l'une des paraboles que l'on verra probablement, je pense bien que c'est pas mal sûr, que l'an prochain on aura les paraboles. Alors, on aura une parabole sur les Pères miséricordieux qui sera le texte central de tout le Nouveau Testament et qui reprend complètement l'Ancien en le dépassant aussi, qui sera la parabole du Père miséricordieux. Donc, nous sommes au cœur même du cœur de la Bible. Maintenant, si nous allons à l'hébreu, parce que nous sommes en train de repasser là, les étymologies, si nous allons... Non, allons au grec d'abord, « sunpatein ». « Sunpatein », c'est le mot... La mort « sun » veut dire « avec ». Patine veut dire passion, vibrer, vibration.
Souffrir aussi, non?
Souffrir aussi, par différence, c'est devenu souffrir. Parce que dans toute sa, souvent dans une passion, on a une souffrance. Parce que nos petits disques 45 tours le disent. D'un côté, c'est marqué « Je t'aimerai toujours », puis de l'autre côté, « L'amour est mort ». Alors, nos passions aboutissent souvent à des souffrances. De telle sorte qu'on a le mot en grec « sunpatein », qui veut « d'où vient le mot français « compassion », qui lui aussi vient du latin « compassio ». Alors voyez-vous, tous les termes se recoupent là, pour finalement, si on les reprenait tous, quels sont les éléments constitutifs qui, au fond, fabriquent la nature même de cette vertu ou de cette qualité fondamentale de Dieu, qui est la compassion, qui est l'empathie, qui est la miséricorde. Ça comporte trois éléments. D'abord, une vibration. C'est-à-dire sentir la souffrance d'un autre. Alors, la miséricorde, c'est par rapport à un autre, ça. Alors, on avait la béatitude de bienheureux ceux qui pleurent, ça, c'était par rapport à soi-même, quand nous sommes blessés. Mais dans la miséricorde, nous sommes blessés de la blessure d'un autre. Alors, premièrement, il y a une vibration qui s'installe en nous face à la blessure d'un autre. Premier élément. Deuxième élément de la miséricorde, c'est que, pourquoi ça s'installe en nous, cette blessure-là? C'est parce qu'on l'aime. C'est la différence avec la pitié en français. En français, on dit, quand on voit une grenouille ou un écureuil se faire écraser dans la rue, bon, ben, c'est sûr, il n'a pas observé les lumières de circulation, là, bon. Mais on trouve ça de valeur. On dit, ça fait pitié. Mais on en reste là. On ne pense pas à construire des écoles pour éduquer les écureuils, tout ça. On ne va pas plus loin. On trouve que c'est de valeur. Tandis que, dans la miséricorde, on est touché parce qu'on aime vraiment l'autre. Et ainsi arrive un troisième élément, c'est qu'on veut faire quelque chose. Alors, premièrement, on endure la souffrance d'un autre. Deuxième, elle nous touche comme si elle était la nôtre. Deuxièmement, parce qu'on l'aime. Et troisièmement, on veut faire quelque chose, donc il y a une action qu'on essaye de produire.
On veut réagir.
On veut réagir. Par exemple, mettons une mère de famille qui voit son enfant faire de la fièvre, mettons à 102 degrés, elle va faire 104. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime, son enfant. Mais si elle ne l'aimait pas, elle dirait il fait 102. Bon, comme un médecin, des fois, je ne veux pas dire qu'il ne nous aime pas, là, mais un médecin dit, bon, ben, c'est un beau cas, ça. C'est qu'au fond, il ne ressent pas une bonne chance d'ailleurs. Ça serait terrible. Il mourrait à chaque semaine. De même, une garde malade qui voit un malade faire la température, elle va dire il fait 102, elle marque 102 sur le dossier, elle va faire ce qu'elle peut. Mais quand même, elle n'endure pas la souffrance comme telle. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas encore assez personnalisé là, pour cette personne-là. Alors, la vibra... Alors, ça, c'est l'étymologie grecque un peu, ça. Maintenant, allons à l'étymologie hébraïque, qui est Rahamim, qui est la tendresse, mais d'une façon spéciale, et si vous voulez, nous y reviendrons tantôt.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous étudions les béatitudes. Nous en sommes à la cinquième béatitude, celle des miséricordieux, et M. Truchon nous explique un petit peu la sémantique oui. du terme qui est employé dans les textes d'origine.
Oui, alors le terme hébreu « rahamim », ça veut dire quoi? Ça comporte quoi comme expérience? L'étymologie, la sémiotique là-dedans, bon, la sémantique, c'est quoi tout ça? Alors, Rahamim, ça veut dire tendresse. Décomposons le mot encore, comme on l'a fait pour le mot français tout à l'heure, le mot grec, le mot latin. Alors, Rahamim, on a d'abord un pluriel à la fin. En hébreu, le pluriel, c'est toujours im. Donc, Rahamim. Ensuite, nous avons Rahav. Et Rahav, ça, c'est de là que vient le mot rabbin. C'est-à-dire, au fond, la nourrice, celui qui nourrit, le professeur...
Le maître.
Le maître qui fait l'accouchement, qui enseigne. Bon, alors tout ça, ça vient... Mais au fond, le mot premier, au fond, ça veut dire les organes génitaux féminins. Alors, le mot le plus puissant de la révélation du Nouveau Testament à propos de Dieu, et encore plus dans le Nouveau Testament, dans la Révélation chrétienne, dans toute la Bible, je voulais dire, mais surtout dans la Révélation chrétienne, c'est le mot « rahamim » qui veut dire les organes génitaux féminins. D'abord, le sein, qui est en bas, d'où se fait la conception, où se fait la conception de l'homme, et ensuite, les seins, en haut, qui sont les organes pour nourrir l'homme.
Alors là, vous allez nous faire le rapport avec la miséricorde.
Et monsieur, ça va être facile. Parce que, au fond... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous aime d'un amour physique. Il nous engendre physiquement. On dit Dieu est un esprit, oui, oui, oui.
En bon français, comme dans ses tripes.
Ah, plus qu'encore, parce que les tripes, c'est encore les intestins. C'est plus profond que les intestins. D'ailleurs, ça me frappe tout le temps, moi, quand on dit dans le sein de la Vierge Marie, mais on dit aussi que tes entrailles soient bénies. C'est évident que c'est le sein dont il est question, c'est pas les intestins. Alors, les entrailles, c'est-à-dire le sein, l'utérus, c'est le lieu où nous venons au monde, où se produit un être nouveau. Alors, autrement dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pour dire que Dieu y est tellement pogné par nous autres dans son amour que c'est physique, que ses entrailles bougent quand on est mal pris. Autrement dit, c'est comme une mère. Je dis comme une mère, c'est
mais
plus...
Mais tout ça, c'est une série d'images. Dieu n'est pas physique.
Ce sont toutes des représentations
pour nous aider à mieux comprendre.
La réalité est plus forte que l'image encore. Parce que c'est Dieu qui bâtit les mers. C'est Dieu qui bâtit les cœurs. C'est Dieu qui bâtit les torus. C'est Dieu qui bâtit les saints pour nous nourrir. Dieu est plus que ce qu'il fait. C'est l'auteur même. Alors Dieu il est plus que comme une mère. Il est 100 milliards de fois plus qu'une mère.
Sans doute, mais il n'est pas le corps physique dont on parle.
Il est à l'origine encore plus fort. Et c'est pour ça qu'il sera même à l'origine du corps psychique et du corps spirituel, et non seulement du corps physique. Alors, quand nous avons avec Dieu une relation qui est d'ordre physique, je dis ça, c'est pour dire dans le sens encore plus réel que ce qui est physique. Nous autres, on dit « garde la table, touche J, c'est bien vrai, hein? » Ben, Dieu, c'est encore plus vrai que la table, parce que c'est à l'origine de la table. Autrement dit, l'auteur d'une œuvre est encore plus puissant que l'œuvre qui est produite. Et il y a un rapport, d'ailleurs, de qualité et d'image entre une œuvre et son auteur. Alors Dieu, en fait, là, il dit d'ailleurs dans l'Ancien Testament, si une mère venait à oublier son enfant, ce qui est inconcevable, ben moi je t'oublierai pas. Et il dit encore, je t'ai ramassé dans ton sein, autrement dit dans la misère, et c'est moi qui t'ai nettoyé, tout ça, comme on fait pour l'accouchement d'un enfant. D'ailleurs, les Juifs, quand ils rentrent dans une maison, c'est quoi qu'ils font? Ils se mettent le pouce sur le corps de la porte, lieu d'ailleurs où on marquait les esclaves, pour pas faire mal aux esclaves, on lui collait l'oreille après le corps de la porte, puis avec un poinçon, on faisait un trou, puis là, on lui mettait une marque comme de quoi l'esclave appartenait à tel maître.
Alors, dans l'oreille.
Dans l'oreille. Alors, les Juifs ont gardé cette image, c'est-à-dire que ils mettent un petit texte hébreu, d'ailleurs Deutéronome 6, 1 et suivant, et Lévitique 19, 18, qui veut dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, donc des orteils aux oreilles, là. Tu aimeras ton Dieu ainsi qui t'a donné la maison parce qu'il t'aime et tout ça. » Alors, les Juifs ont mis ça sur le corps de la porte, comme s'ils touchaient à Dieu, et ils mettent le pouce dans leur bouche. Parce que quand un enfant met le pouce dans sa bouche, il y a deux raisons. Soit qu'il a faim, soit qu'il s'ennuie. Alors voilà les deux coordonnées présentes dans la miséricorde divine. Autrement dit, Dieu ne peut jamais, jamais être infidèle dans son amour pour nous. C'est absolument impensable, c'est contraire à sa nature, parce qu'on est ses enfants. Alors Dieu est un pardon vivant. Et deuxièmement, ça c'est l'origine de la miséricorde, c'est l'explication de cette origine, c'est que nous sommes ses enfants. Deuxième explication, c'est qu'il ressent 100 millions de fois plus qu'on ressent. Et alors, l'histoire de voir Dieu comme un sphinx, là, chromé, qui sent rien, là, une sorte de boîte à réponse aux questions, là, en marbre, là, c'est absolument faux. Dieu a plus de sentiments encore que nous autres. Évidemment, il n'y a peut-être pas de peau pour réagir, là, mais c'est encore plus fort. Autrement dit, Dieu a bien plus de puissance que nos puissances que nous avons, comme nos sens externes, nos sens internes, tout ça, pour lui, c'est de la petite mécanique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas voir Dieu actuellement avec notre petite machinerie à casserette, pas assez forte. Alors, Dieu ressent ce qu'on ressent d'une façon encore plus parfaite. Il est plus intime à moi-même que moi-même, et il m'aime tellement qu'il n'est pas capable de concevoir le mal que je fais. Il en trouve toujours une explication. Et quand le Christ sera su à la croix, qu'est-ce qu'il dira au Père? Pas pour le renseigner, il savait bien qu'il était au courant, mais pour qu'on sache comment ça marche entre eux, il disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, dans son esprit, l'homme est incapable de faire le mal. Il ne peut pas.
Monsieur Truchon, avant que vous ne parveniez à m'interrompre, j'ai une question. Au sujet des termes employés dans les textes d'origine, vous précisez que les traductions françaises des mots hébreux et grecs oscillent, comme vous l'avez précisé tout à l'heure un petit peu, de la miséricorde à l'amour, en passant par la tendresse, la pitié, la compassion, la clémence, la bonté et même la grâce. Au premier coup d'œil, donc, on pourrait même dire que la miséricorde, puisque c'est le mot qui a été choisi en français, c'est un terme un petit peu fourre-tout. Qui veut rendre un concept, disons, universel et qui viserait à définir toutes les composantes, toutes les variantes de l'amour. Est-ce que c'est un peu ça, la miséricorde?
J'aurais tendance à dire c'est parfait parce que c'est pas dans le sens de fourre-tout, c'est dans le sens que ça résume, c'est comme un soleil d'où sortent tous les rayons. Alors, tous les sacrements ont comme sacrement central l'Eucharistie qui en est l'origine parce que c'est le Christ lui-même présent en personne. Alors, évidemment, dans les autres sacrements, c'est en vertu des actes du Christ qu'ils tirent leur valeur et notre foi en eux, qui est son amour. Alors, c'est évident que tout venant de l'amour, au fond, c'est pas un fourre-tout, c'est le soleil d'où tout sort. Et c'est pour ça que Dieu est miséricorde, et c'est la plus grande louange qu'on peut faire à Dieu en disant qu'il est miséricorde, parce que c'est le fin fond de son être par rapport à nous. Nous sommes là dans le trognon de son cœur, si vous voulez, dans le fin fond de son cœur, et dans le nôtre, au fond, parce que il veut aussi que nous soyons miséricorde. Parce que si nous n'avons pas d'amour, dit Saint Paul, nous sommes à rien. Mais c'est la miséricorde qui démontre vraiment cet amour, c'est-à-dire cet amour fidèle en toutes circonstances, qui ne change jamais, quelle que soit la situation de la relation, qu'elle soit même avortée du côté de l'un des partenaires, l'autre ne bouge pas. Alors on voit, c'est sans Dieu, cet amour est très difficile. Mais c'est possible parce que, pas sans Dieu je veux dire, mais avec Dieu c'est possible parce qu'il vient aimer en nous. Autrement dit, c'est le Christ lui-même qui dépose dans chaque homme cette puissance de miséricorde face à un être blessé. Mais là encore, nous pouvons ne pas y répondre, c'est bien certain. Mais le Christ lui-même et ce sentiment et cette action et ce Dieu pour nous. Et si, par exemple, ça frappe à la porte, puis je reconnais le Christ, puis si je dirais « Salut Elasmos », ou bien « Salut Rahamim », ou bien « Salut Sunpatin », ou bien « Pancréatikos », ou bien n'importe quoi, c'est qui exprime toute cette puissance d'amour de Dieu, il dirait « Salut, tu m'as reconnu, c'est bien moi ». Alors, le mot « sauveur » qu'on veut dire en français, et qu'aujourd'hui, des fois, on ne sait pas trop de quoi qu'on se fait sauver, là, le mot « sauveur », C'est le médecin miséricorde qui est Dieu pour nous, c'est la miséricorde. C'est Dieu est devenu une action vivante d'acceptation de notre être et de notre cœur dans toutes ses dimensions, surtout quand nous sommes mal pris. Et saint Augustin, comme on l'avait cité tout à l'heure, comprenait très bien cette miséricorde et il l'exprimait ainsi. Ce n'est pas parce qu'on est bon que Dieu nous aime, mais c'est parce qu'on pense et qu'on sait qu'il nous aime qu'on peut devenir bon. Et tout ça, c'est à cause de la miséricorde divine. Saint Paul dira encore, alors que nous sommes pécheurs, donnerions-nous notre vie pour un pécheur, passe encore pour un homme juste, Dieu le fait, lui, alors que nous sommes pécheurs. Et c'est certain qu'en Jésus-Christ et par Jésus-Christ et dans l'Esprit-Saint, nous sommes tous pardonnés par Dieu, comme disait Saint Pierre aux apôtres, nous sommes tous pardonnés avant même de venir au monde. Et quand nous allons recevoir la célébration du pardon, c'est évident que du côté de Dieu, nous sommes déjà pardonnés. Et nous le voyons très bien dans la parabole du miséricordieux. Seulement, il nous faut recevoir ce pardon. Il nous faut en vivre. Et là, on arrivera à ce moment-là à l'item où on parlera du fonctionnement de cette béatitude.
Oui, mais avant, j'aimerais vous parler de la notion de miséricorde dans l'Ancien Testament. Je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles on met l'accent sur la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est pour l'opposer à d'autres dieux qui, eux, n'étaient peut-être pas reconnus pour leur miséricorde. Mais dans notre contexte, c'est un peu différent. La miséricorde de Dieu, on ne cherche pas à l'opposer aux qualités d'un autre dieu. Ou bien on y croit, ou bien on n'y croit pas.
Oui, je profiterai de ton intervention pour dire que dans l'Ancien Testament, évidemment, la justice est très présente et les œuvres aussi qui en suivent. Mais par contre, comme tu vous dites bien, dans l'Ancien Testament, nous avons aussi la miséricorde. Mais ce qui fait le mieux comprendre ça, moi, je pense, c'est la justice intérieure et la justice extérieure. La justice extérieure, c'est la justice des œuvres. Que Dieu veut, bien sûr, pour que nous soyons heureux et que nous nous aimions les uns les autres.
C'était celle sur laquelle on insistait davantage dans l'Ancien Testament.
Oui, en tous les cas, peut-être pas au niveau des textes essentiels, mais en pratique. Alors, on disait le juste, le juste, le juste, mais ce qu'on oublie des fois aussi, c'est que le mot juste en hébreu veut très bien dire fidèle et aussi justice intérieure. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament avait pas tort, seulement que les hommes en ont fait souvent un livre de justice extérieure, et les pharisiens en particulier, comme on le voit dans le Nouveau Testament. Mais ce qui est important de voir, c'est que la justice extérieure est bonne, mais c'est la charité ou l'amour, c'est-à-dire la justice intérieure, et évidemment la miséricorde, qui rend la justice non seulement possible, mais efficace, c'est-à-dire que collaboratrice de nos comportements, mais par rapport au cœur d'abord. Donc l'amour tout le temps prime, et la miséricorde, c'est la preuve de l'amour, c'est-à-dire d'être capable de donner sa vie pour l'être aimé, comme dira Jésus, c'est le plus grand signe d'amour. Et quand deux êtres acceptent de souffrir ensemble l'un pour l'autre, et même des fois l'un par l'autre, pour réussir à sauver l'autre, donc pour l'autre, ces êtres-là ne sont plus séparables. Autrement dit, la miséricorde, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'amour humain, et c'est ce qu'il y a de plus déterminant dans l'amour divin, et la croix du Christ, sur laquelle le Christ repose et est glorifié, de ses plaies sort cet amour qui peut nous guérir et nous nettoyer ou nous laver et nous rendre complètement heureux et travailler à la suite du Christ pour la construction de son royaume. Et nous voyons dans notre Père, « Père, pardonne-nous comme nous pardonnons », le « comme », c'est-à-dire « redemeurons dans ton amour et nous serons capables, en étant heureux, de pardonner », c'est-à-dire de permettre à un autre à retrouver le bonheur.
Monsieur Truchot, j'aimerais faire un petit saut de l'Ancien Testament jusqu'à peut-être aujourd'hui. Vous écrivez qu'être miséricordieux, c'est non seulement pardonner à quelqu'un ses fautes, et c'est ce que nous entendons le plus souvent, je pense, par la miséricorde dont Dieu fait preuve à notre endroit, mais c'est aussi souffrir avec l'autre quand il souffre. Il me semble que c'est un sens de la miséricorde sur lequel on n'a pas tellement insisté dans les enseignements traditionnels. Pourquoi donc?
Bon, ça, c'est peut-être la psychologie, moi, qui m'a aidé un peu à comprendre plus ça, parce que toutes les sciences nous aident à comprendre la foi à un moment donné, parce que la foi est un phénomène humain et toutes les sciences sont utiles. On en parlera davantage quand on parlera du fonctionnement. Mais pourquoi la souffrance? Parce que l'être aimé qu'on aime, l'être qu'on aime souffre. Alors, c'est impossible de ne pas souffrir avec lui. Et d'ailleurs, quand on souffre pour l'être qu'on aime, on abolit nos souffrances à nous-mêmes et nous soulageons l'autre jusqu'à un certain point puisque nous lui permettons de prendre une distance dans sa conscience, de prendre une certaine distance face à cette souffrance. Aujourd'hui, heureusement, nous avons des médicaments qui aident. Il y en avait aussi dans le temps du Christ. On a offert de la drogue au Christ quand il était sur la croix parce que les Juifs, les Romains, je voulais dire, ne voulaient pas tellement faire souffrir les hommes sur la croix que montrer un exemple, un mauvais comportement, qu'est-ce que ça donne. Mais il reste que quand on aime quelqu'un, on a mal à sa jambe qui souffre, on a mal à son corps, on a mal à ça. Et il s'agit de voir une mère de famille, quand le dernier de la famille n'est pas rentré, puis qu'il est minuit, son mari, elle tourne dans le lit, puis même s'il y en a 14 de rentrée, elle tourne encore. Alors, son mari pourrait bien y dire, au moment donné, ben dors donc, il y en a 14 de rentrée, mais c'est pas de même que ça marche, c'est que c'est bien qu'il n'est pas rentré, il faut qu'il rentre.
C'est celui-là qui cause l'inquiétude, c'est celui-là qui cause l'inquiétude. Pas tout seul.
Exactement, et dès qu'un homme souffre sur terre, au fond, Dieu est malheureux, parce que Dieu est malheureux dans le sens qu'il veut qu'on soit heureux. Et sur la croix, Jésus veut attirer tous les hommes à lui pour les rendre heureux et pour les guérir et pour les associer à sa vie et faire participer à son bonheur. Alors Dieu endure tout ce qu'on endure, Dieu a souffert tout ce qu'on a souffert. Dans l'Ancien Testament, Dieu est tout puissant, mais dans le Nouveau, il est tout à fait impuissant devant nos souffrances. Nos souffrances l'atteignent et il court après nous autres pour les guérir et surtout par nos consentements d'abord dans la foi en lui. Et c'est tout Isaïe 6, 9 et 10. Nous en reparlerons d'ailleurs à propos du fonctionnement.
Oui, parce que malheureusement, le temps nous manque déjà. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous.